Eh bien, je pensais me servir de ce texte de la Samaritaine pour méditer sur le thème d'aujourd'hui, l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, c'est un texte que nous connaissons déjà bien. Comme vous le savez, on trouve de tout à la Samaritaine. Mais c'est bien de le voir dans cette perspective de l'évangélisation. En quoi la Samaritaine et ce contact avec Jésus nous donnent une matière à procéder, disons, à essayer de voir justement, ça veut dire quoi l'annonce de la bonne nouvelle? Parce que le Saint-Père Benoît XVI, vous le savez, a mis vraiment comme objectif de son pontificat la nouvelle évangélisation. Il a créé un conseil pour la nouvelle pontificale, pour la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire une instance du Vatican spécialement dédiée à la nouvelle évangélisation, et en particulier dans les pays d'ancienne chrétienté, où c'est plus difficile parce qu'on a déjà reçu l'annonce de l'évangile. Quelque part, cet évangile, il a été source de culture dans notre pays, dans notre continent européen et ailleurs. Mais aujourd'hui, on le voit bien, il y a comme une forme de désintérêt. Il dit une belle expression, un analphabétisme religieux. C'est que les personnes confondent les choses, ne sont pas bien au courant de ce que ça veut dire les réalités spirituelles, chrétiennes. Et donc, il nous appelle à une nouvelle évangélisation, à l'annonce de la bonne nouvelle renouvelée. C'était déjà le pape Jean-Paul II qui avait appelé à ça. Donc, on est vraiment en plein dans le désir du Saint-Père en méditant sur cette annonce de la bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Et je trouve que la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, c'est un peu l'archétype, c'est-à-dire le modèle de ce que peut être l'annonce de la bonne nouvelle. Comment un peu faire cheminer nos contemporains dans cette annonce de l'Évangile et les amener à la rencontre avec le Christ. Alors, je vous propose de lire le texte, hein, et puis petit à petit de méditer avec, et puis ensuite on pourra éventuellement partager ou vous poserez des questions. Donc c'est tiré de l'évangile de Jean, c'est au début de l'évangile, après le miracle de Cana. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi, tu es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Alors, la première chose, c'est que je trouve qu'on peut tirer de ce petit passage, du début de ce récit. D'abord, le Seigneur lui-même n'a pas peur d'aller au-delà des clivages. Au-delà des clivages entre juifs et samaritains. Les samaritains étaient des païens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'intérieur même du peuple de l'Alliance. C'est pour ça qu'il est mentionné, les juifs n'ont rien à voir et n'ont pas de relation avec des samaritains. On voit bien qu'un juif qui a un contact avec un païen, eh bien, devient impur. Vous avez peut-être fait l'expérience en Israël. Certains sont allés déjà en Israël. Non, personne. Vous n'avez pas encore fait de pèlerinage. Il faut demander. Il faut demander au père des Oblats d'organiser un pèlerinage en Terre Sainte. Et de voir. Et là, vous ferez une expérience assez étonnante. Si vous verrez des juifs pieux qui ne vous saluent pas. Parce que s'ils vous saluent, ils sont impurs. compliqué, hein, parce que justement vous n'êtes pas juif. Donc on voit bien dans que Jésus va au-delà des clivages. Et aujourd'hui, les clivages religieux, ils existent aussi entre différentes religions, mais aussi avec des personnes qui sont en dehors de l'Église, des personnes qui n'ont pas vraiment de religion. Et donc, je trouve ce qui est beau, c'est de voir le Seigneur qui, au fond, rejoint cette femme dans son quotidien. Et que l'annonce de la bonne nouvelle, elle se fait dans le quotidien, dans son quotidien à elle. Par exemple, l'appel des disciples, les premiers disciples, c'est assez marquant. Ils sont en train de pêcher, ils sont avec leur barque et leur filet, et Jésus les appelle, et laissant leur barque et leur filet, il les suivit. Donc, on voit bien que c'est dans cette réalité-là de tous les jours que se fait la rencontre avec le Christ. D'où aussi l'importance de notre quotidien qui nous paraît peut-être banal, qui nous paraît... mais qui est le quotidien du travail, le quotidien des rencontres sociales, des amitiés, et que nous ayons dans nos amitiés une certaine diversité aussi. Diversité de personnes, diversité de styles, pour pouvoir justement rentrer dans cette nouvelle évangélisation. Et Jésus, fatigué, alors c'est intéressant, fatigué par la marche, et donc va au-devant de cette femme, donne-moi à boire. Il va au-devant de cette femme avec une attitude, une quête vraiment de comme un pauvre. D'abord une femme, seule, sans son mari, lui Jésus seul. Dans le monde biblique, on n'adresse pas comme ça un homme seul n'adresse pas la parole à une femme seule. Là encore, un autre clivage qui saute d'une certaine manière. Et donc, il est dans un positionnement de, on peut dire, de fragilité quelque part. Il est, donne-moi à boire. J'ai à recevoir quelque chose de ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. J'ai à recevoir quelque chose de ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. C'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas en donneur de leçons, je ne suis pas en celui qui sait, et je ne me positionne pas comme ça, mais je me positionne comme Jésus, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, ça veut dire aussi que Jésus fait découvrir à l'autre qui peut être une source. C'est ça que ça veut dire. Donne-moi à boire, c'est, et on le verra bien, il conduit vraiment, c'est un modèle d'évangélisation extraordinaire, la Samaritaine. Ben justement, il conduit cette femme de l'extérieur vers l'intérieur. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié. » Et il t'aurait donné de l'eau vive. Ça, rien que cette réponse, on voit qu'on rentre tout à fait dans un autre rapport, dans un rapport spirituel. Et c'est assez fréquemment que Jésus utilise des réalités matérielles ou naturelles pour pouvoir dire une réalité spirituelle, que ce soit le sel, que ce soit la lumière, la vigne, le vin... on voit bien que avec des paraboles, il essaye de transmettre quelque chose, mais en partant du quotidien des gens, en partant de ce qu'ils connaissent. Et nous-mêmes, je crois que nous avons à faire cet effort de connaître aussi la réalité de nos contemporains et de ne pas avoir peur d'une parole qui amène plus loin. Alors, si tu savais le don de Dieu, tout de suite, il le positionne dans une réalité intérieure. Le don de Dieu, c'est donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais prié de donner de l'eau vive. Ben voilà, est-ce que tu prends conscience de qui te parle ? Alors, nous pouvons, là, il y a un peu une limite de comparaison avec Jésus, on ne peut pas non plus dire, donne-moi à boire, si tu savais le don de Dieu, celui qui te dit donne-moi à boire, c'est difficile de se positionner là-dedans, parce que le Christ peut le dire en personne propre. Mais d'une manière ou d'une autre, inviter nos contemporains à réveiller ou à exprimer leur soif de Dieu. C'est intéressant, dans la session justement sur la nouvelle évangélisation, le Père Stéphane nous a montré une exposition qui a eu lieu à Paris en 2008, Les traces du sacré. Et de voir au fond que, bien plus qu'on ne le croit, nos contemporains sont en quête du sacré. Bien plus qu'on ne le croit. Il y a un désir de sacré, de spirituel, qui ne s'exprime pas toujours dans l'Église ou qui trouve une expression ailleurs, que ce soit dans des philosophies asiatiques, par exemple, ou dans une démarche spirituelle, mais qui n'est pas cadrée comme nous on l'imagine. Mais il y a un vrai désir du sacré, il y a un désir du sacré, il y a un désir de Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur ne repose tant qu'il ne demeure en toi. Je veux dire, et ça, nous reconnaissons que dans chaque personne humaine, il y a une quête qui trouve ensuite une expression selon ce que chacun fait et les rencontres qu'il fait surtout. Mais ne disons pas « Ah ben les gens n'ont plus soif ». Il y a une forme de parfois on entend de découragement dans l'Église, où « Ah ben il y a des cheveux blancs dans les paroisses, où il y a que les jeunes ne sont plus au rendez-vous, où les personnes s'en moquent, elles s'en fichent bien de l'Évangile ». Bon, c'est pas la réalité. Je crois que simplement, il faut le rendre audible, cet évangile. Il faut le rendre accessible. Et si on le rend accessible, alors je pense que c'est quelque chose qui peut venir toucher, justement, et réveiller le cœur. C'est ce que fait Jésus, réveiller le cœur des gens, de cette Samaritaine qui n'est pas du peuple de l'Alliance. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Alors je trouve cette réponse-là, elle est très belle. La femme, on voit, elle n'est pas passée au niveau spirituel. Elle n'a pas compris clairement la réponse de Jésus. Mais de quoi parle-t-il? Tu n'as même pas de seau pour puiser, tu n'as rien. Et tu veux de l'eau vive. Et donc on voit bien cette femme qui tâtonne et qui avance à tâtons, au fond, avec le Seigneur, qui découvre. Et, parce que justement, le fait d'accéder à la réalité spirituelle, se fait aussi par étapes. Ça se fait par étapes. Et je crois que ça demande une certaine patience, une certaine progressivité. Pour toucher et réveiller la quête de sacré, la quête de Dieu dans nos contemporains, ça demande une progressivité. Ça ne se fait pas tout seul. Et Jésus lui répond, voilà, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais de l'eau que je vous donnerai, quand vous la boirez, vous n'aurez plus soif. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, ne vienne plus ici pour puiser. Il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Alors, là encore, c'est intéressant de voir. Cette femme-là, est-ce que c'était une femme quelconque? Pas forcément, parce que c'est une femme, on le verra après, qui convoque tout le village et qui, ensuite, témoigne de ce qu'elle a reçu. Mais cette femme-là, c'est intéressant, c'est de voir que... elle voit aussi encore un côté pratique. Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus besoin de venir... Ça m'évitera la corvée d'eau. Donne-moi un peu ton secret. Alors, je crois que dans ce dialogue-là que l'on a entre Jésus et la Samaritaine, dans cette partie-là, ça c'est une première partie, on a un peu l'approche et au fond, une quête d'utilité. À quoi ça sert de croire? Est-ce que, donne-moi de cette eau vive que je n'ai plus à venir au puits pour puiser et emmener ensuite avec ma cruche au village l'eau que j'ai puisée. C'est-à-dire, on est encore dans une utilité. À quoi ça sert de croire? Et les personnes nous disent, à quoi ça sert? Ça change quoi de croire? Ça changera quoi dans ma vie? Est-ce que ça change quelque chose? D'où l'importance pour nous de savoir mettre des mots. Et là, je crois que là on a un vrai manque. Et on a un vrai manque, on ne sait pas mettre des mots sur notre foi. Pourquoi est-ce que l'on croit ce que l'on croit? Pourquoi je suis catholique? Et non pas bouddhiste, et non pas hindouiste, et non pas musulman ou agnostique. Alors on dira, ben, je suis né dans une famille. Ah bon, ben, c'est culturel, alors c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Il n'y a pas plus que le culturel? Est-ce qu'on n'a pas découvert en Jésus quelque chose qui répond à la soif de chaque homme et de chaque femme? Je pense que c'est là la question, c'est que à quoi ça sert de croire? Qu'est-ce que ça change dans qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et c'est là où il faut faire l'expérience. On l'a vu aussi durant la session, en parlant particulièrement des jeunes. Les jeunes ne croient qu'à l'expérience de ce qu'ils font. Et les jeunes et nos contemporains, parce que tant que je ne l'ai pas expérimenté, ce n'est pas valable. Ce n'est pas parce que l'on me dit de croire que je croirai. Donc il faut proposer des expériences de la foi pour pouvoir être audible de la part de nos contemporains. Ah voilà, donc cette femme-là qui est encore dans l'utilité, dans le bon. Et puis, là, on assiste, il y a un changement. Il y a un changement où Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari maintenant, en cela tu dis vrai. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères... » Alors, on arrête là. La question du mari, au fond, c'est la question de l'amour. C'est la question « Appelle ton mari. » Je n'ai pas de mari, et Jésus lui dit, « Tu en as eu un, et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. » Alors, les interprétations sont diverses. Soit il s'agit des idoles adorées par les Samaritains, qui étaient aussi au nombre de 5. Soit il s'agit effectivement des 5 maris successifs qu'a eu cette femme, et donc une vie un peu agitée, on peut le dire comme ça. Hein, plus un 6e qui n'est pas son mari. Au fond, qu'est-ce que fait Jésus? Jésus vient toucher sa blessure dans sa capacité d'aimer. Le fait d'avoir 5 maris ou 5 idoles ou 5, c'est qu'il y a une capacité d'aimer en elle qui n'a pas encore trouvé son assouvissement, qui n'a pas encore trouvé son accomplissement. Et Jésus vient toucher un peu sa blessure, vient toucher ce qui peut être en elle, sa blessure intérieure, sa blessure d'amour, ça. Et en chacun de nos contemporains, il y a aussi une blessure. Il y a aussi un désir d'aimer. Et on le voit bien, nombre de nos contemporains aussi sont dans une attitude de souffrance par rapport à leur vie affective. Quand on a fait une enquête sur les jeunes entre 15 et 25 ans, qu'est-ce qui comptait le plus pour eux dans leur vie? Qu'est-ce qui était le plus important? La réponse était réussir ma vie affective, plus que le travail et l'argent. C'est-à-dire aimer et être aimé. Et en ce sens-là, il n'y a pas de changement, c'est parce que l'amour est éternel et parce qu'on est fait à l'image, à la ressemblance d'un amour. Donc c'est intéressant de voir Jésus qui vient et s'approche d'elle, alors Jésus qui a une connaissance, une préscience et qui connaît de façon, parce qu'il est Dieu, évidemment, cette personne, mais il l'emmène plus loin, au-delà de l'utilité, il l'emmène dans l'amour. Il l'emmène dans son désir de communion. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Alors là, ça change. Là, on voit très clairement que là, on passe à un autre niveau. Et je pense que, vous voyez, bien souvent, on attaque l'Église avec les questions de morale, de familiale, ou sexuelle, ou que sais-je, et on en reste là. Ou pourquoi les prêtres ne se marient pas, ou pourquoi, bon, des tas de choses comme ça, on voit bien que les personnes s'adressent à elles. Et on n'a pas toujours le réflexe de l'intériorité. Et on essaie de répondre. De répondre point par point. Alors les prêtres ne se marient pas pour ça. Mais pour comprendre le célibat, par exemple, consacré, ça demande toute une vie intérieure, ça demande une vie spirituelle, je veux dire, ça demande de la connaissance de Dieu, ça demande énormément de choses. Je veux dire, le célibat consacré ne va pas de soi. Et donc, parfois on fait fausse route, c'est-à-dire que les personnes ont des demandes par rapport à l'Église, mais on essaie de répondre sans les entraîner dans leur désir de communion, sans répondre à leur désir de communion, sans aller... Et c'est là où il faut avoir une certaine audace, de dire, ben, l'essentiel, bon, ce que tu dis, oui, bon, c'est une réalité, mais toi, où est-ce que tu en es de ta vie intérieure, de ton désir d'aimer, où est-ce que tu en es ? C'est avoir une certaine audace pour pousser plus loin le dialogue et ne pas rester dans cette réponse de tac au tac et de dire, ben voilà, oui, l'Église dit ça ou les prêtres ceci, cela, mais ça, c'est pas forcément le plus important, ça, c'est important, mais toi, où est-ce que tu en es dans ta vie spirituelle ? Qu'est-ce qui compte à tes yeux ? Qu'est-ce qui a sens à tes yeux ? C'est quoi le sens de ta vie ? Parce que c'est ça la vraie question. C'est quoi le sens ? Aujourd'hui, plus que jamais, la quête, c'est une quête de sens. Et on voit bien qu'on est à la fin d'un cycle de la société de consommation, du capitalisme, etc., qui s'épuise. Et les personnes ne savent même plus. Elles veulent avoir un peu de sens de pourquoi elles travaillent, de pourquoi elles gagnent de l'argent, de pourquoi... C'est quoi le sens de tout ça ? Donc il y a aussi une vraie quête aussi de nos contemporains, une vraie attente, vraiment une attente par rapport à ça, par rapport au sens de leur vie. Donc Jésus les met dans une attitude de par rapport à la Samaritaine, Jésus la met dans une attitude intérieure de toucher le sens de sa vie, son désir d'aimer et d'être aimé. Alors elle le reconnaît comme prophète, ce qui est déjà pas mal. Elle le reconnaît comme prophète. Ensuite, il y a une autre question, c'est de la part de la Samaritaine. On voit donc une progression. Il y avait le désir de puiser de l'eau. Il y avait cette blessure d'amour de cette femme qui a eu 5 maris et celui qu'elle a actuellement n'est pas son mari. Son désir de communion qui est blessé et qui est inassouvi. Et puis, elle passe à autre chose. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer. Alors, là, on va tout à fait encore plus profond sur la question de l'adoration. Quel est le lieu de la rencontre avec Dieu ? Quelle est la religion ? Au fond, nous, on a une religion comme Samaritain, vous, les Juifs, vous avez une religion, mais c'est quoi la vraie religion ? En quoi on doit croire? Dans quoi, à quoi on doit se, à quel Dieu on doit se donner? À quel saint on doit se vouer? Et là, on voit bien cette femme-là qui pose la question à Jésus comme un prophète. On verra ensuite, on dira encore autre chose. Et puis, on voit cette femme qui les Samaritains adorent sur le mont Garizim, hein, et alors que les Juifs adorent à Jérusalem. Et Jésus dit non. Ne voyez pas les choses dans une opposition. Moi, je crois que ce qui me marque le plus dans ce passage, c'est ne voyez pas les choses dans une opposition. Soit Jérusalem, soit le mont Garizim. Soit Samaritain, soit Juif. L'heure vient et elle est venue où le Père demande des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ça que cherche l'Esprit. Et c'est ça que cherche le Père. C'est-à-dire que, en esprit et en vérité, c'est-à-dire que, intérieurement, qui ont un vrai désir de Dieu et qui se donnent à lui avec générosité. Et ça, je pense que c'est important que nous-mêmes, nous puissions reconnaître l'Esprit qui est à l'œuvre dans nos contemporains. L'Esprit est à l'œuvre dans l'Église, nous le savons, en chaque baptisé, mais aussi dans les personnes qui ne sont pas baptisées, aussi dans des personnes qui ne sont pas de la même religion que nous. Le Concile Vatican II parle des semences du Verbe, c'est-à-dire déjà des présences de l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, et du Christ aussi qui est à l'œuvre, c'est l'Esprit du Christ qui est à l'œuvre dans d'autres religions. Donc c'est important de dire que, et de reconnaître dans les autres là où est la part de l'Esprit Saint dans leur vie. Ce que vous vivez, nous le reconnaissons comme l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est important de ne pas se faire les propriétaires quelque part de la relation avec Dieu, même si nous croyons que le Christ manifeste Dieu pleinement et nous croyons qu'une vraie relation avec Dieu passe par le Christ, mais nous croyons aussi que Dieu veut que tout homme soit sauvé, c'est en Timothée, hein, la lettre de saint Paul à Timothée, et nous croyons aussi que l'Esprit est à l'œuvre dans les autres religions, quand elles veulent le bien et évitent le mal. Vous voyez, et du coup, reconnaissons dans nos contemporains déjà une présence du Saint-Esprit et quelque chose qui les pousse plus loin. Ah ben la question que vous posez là, ben elle me plaît bien. Encourageons-les dans leur démarche spirituelle. Je pense qu'il faut beaucoup plus les encourager, beaucoup plus être à l'écoute, être accessible, sans rien brader de notre vérité, de la vérité de la foi et de la vérité de l'Évangile, sans rien brader de ça. Mais de dire ce que vous vivez, vous, là, dans cet acte de charité, dans cet acte d'amour, dans cette quête de sens, eh bien, j'y reconnais la présence du Saint-Esprit. J'y reconnais, voilà, où faut-il adorer? La question de l'adoration, c'est-à-dire la question de l'offrande de ma vie à Dieu. C'est ça l'adoration. Quand on adore Dieu, c'est-à-dire se reconnaître créature face au Créateur. Se reconnaître totalement dépendant face à l'amour du Père. Et alors Jésus, c'est intéressant parce que Jésus, j'allais dire, il ne prêche pas pour sa paroisse. Alors qu'est-ce que la femme a compris, on ne sait pas, mais on verra la suite. Il ne dit pas, oui, venez, il sait que le salut vient des Juifs. Oui, il ne brade rien. Il ne dit pas, ben non, écoute, tout est équivalent, toutes les religions se valent. Non, le salut vient des Juifs. Ce qui est juste, c'est clair, le salut vient des Juifs. Le Christ lui-même, juif, nous l'a manifesté. Et en même temps, il dit, attention, ce n'est ni ici ni là, ce n'est pas en chosifiant la religion quelque part. Il y a toute une réflexion à faire par rapport au lieu. Alors c'est un peu plus compliqué. Quelle est la place des lieux dans la religion? Et parfois on associe le salut à certains lieux. Et Jésus dit, tout lieu maintenant est une source de salut. Parce que c'est en esprit, en vérité, qu'on adore le Père. Il ne s'agit pas d'aller ici ou là. Ce n'est pas on n'est pas dans la superstition. On n'est pas dans la crédulité. Il faut adorer le Père en esprit et en vérité. C'est... La femme lui dit... Alors, on continue encore l'avance de voir où est-ce qu'elle va aller, cette femme-là, de sa main samaritaine. Je sais que le Messie doit venir. Alors, on passe encore à autre chose, là. Celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors ça, ce passage-là, il faut... Il est absolument magnifique, parce que la femme a entendu quelque chose. Elle a déjà rencontré des Juifs, évidemment. Parce que pour passer de Judée et pour aller en Galilée, il fallait traverser la Samarie. Donc forcément, il y avait des Juifs qui passaient. Et les gens entendaient. C'était une quête messianique, c'était des temps messianiques. Elle savait que les Juifs parlaient du Messie, donc du coup, elle se tient au courant. Elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et vous savez que c'est le seul passage dans l'Évangile où Jésus dit qui il est. C'est face à une païenne, où il manifeste qui il est. Alors, de façon aussi claire, il l'a dit à... c'est pas qu'il l'a dit à Pierre, c'est que Pierre a fait cette profession de foi quand il a reconnu « tu es le fils du Dieu vivant », etc. Il a fait cette profession. Mais quand Jésus lui-même dit qui il est, c'est face à une païenne. C'est pas face à un juif ou une juive. C'est intéressant, ça. Au fond, il se révèle... dans sa propre identité, face à quelqu'un qui a une forme d'ignorance religieuse de ce qu'est la religion juive, de ce qu'est la religion peut-être même par rapport à sa propre religion, qu'est-ce qu'elle sait de sa propre religion, parce qu'elle se demande où est-ce qu'il faut adorer, est-ce que c'est ici ou là, elle n'est pas au clair même avec sa propre religion. Elle est religieuse, parce qu'en ce temps-là, tout le monde est religieux, mais en ce moment aussi, tout le monde est religieux. Beaucoup plus qu'on ne le croit, il y a une vraie quête du sacré. Et alors, moi qui te parle, je le suis. Donc, quelque part, Jésus a emmené cette femme à la fois à se dévoiler elle-même, à dévoiler sa quête de sacré, et en même temps, à faire que lui-même se dévoile. Et se révèle. Alors, je crois que c'est, par rapport à l'annonce de la bonne nouvelle, je crois que ça nous parle. Nous sommes invités à dire qui nous sommes. Et il ne faut pas taire notre propre identité chrétienne. Il ne faut pas la taire. De croyants, pratiquants. Parce qu'elle est attendue. Cette identité-là, elle est attendue et il manquera quelque chose à la nouvelle évangélisation si on ne dit pas qui l'on est. Et je pense que ça, c'est chacun d'entre nous, on doit avoir cette attitude. Il y a parfois des... Alors, avec discernement, bien sûr, il ne s'agit pas de jeter à la figure des gens notre Bible ou je ne sais pas quoi, ou nos vérités, mais il y a des moments où on peut dire une parole. On peut la dire. Eh bien, à ce moment-là, il faut avoir le courage de la dire. Il faut avoir le courage de la dire. Et ça, je pense que... il faut avoir le courage de se révéler. Quelque part de se... Alors, se révéler, c'est se fragiliser, c'est être un peu fragile aussi. C'est... Voilà. Moi qui te parle, je le suis. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Soit elle va prendre Jésus pour un fou, pour un orgueilleux, pour je ne sais pas quoi. Parce qu'encore quelqu'un qui veut de l'eau vive et qui n'a pas de quoi puiser, ce passage-là, c'est extraordinaire. Alors je pense que vraiment, il faut que la parole de l'Église est beaucoup plus attendue qu'on ne le croit. À nous de faire des propositions. hein, des propositions dans le sens de l'évangélisation, dans le sens des propositions des gens qui s'approchent, vous voyez, des gens qui s'approchent, mais qui ne connaissent pas grand-chose. Il y en a des tas qui s'approchent, comme ça. Vous voyez, pour les sacrements, pour le mariage. 80% de ceux qui s'approchent pour demander le sacrement de mariage n'ont pas grande idée de ce que c'est que l'Église. C'est-à-dire, ce que c'est qu'un sacrement, vous demandez, pourquoi ils veulent se marier à l'Église, alors là. Alors, ils sentent quelque chose de sacré, vous voyez, dans leur amour, ils pressentent quelque chose de grand, qu'il y a quelque chose d'autre que d'eux, et donc du coup, ils veulent se mettre sur le regard de Dieu, et comme ils sont catholiques, alors ils vont voir l'Église pour ça. Vous voyez, il y a des tas de gens comme ça de même pour les enterrements. 70% des enterrements se font à l'église en France. C'est quand même pas rien. Et à peu près, le nombre de décès en France doit être 580 000 à peu près, décès par an, 70% passent par l'église. Plus tous ceux qui sont autour, évidemment la famille, etc. Ça fait des millions de personnes. Donc, parce que dans un décès, évidemment, il y a les amis, il y a les familiers, il y a toutes les connaissances, le village. Bon, oui, ces personnes-là, il ne faut pas avoir peur de leur dire quelque chose. Ils viennent auprès de l'Église pour chercher à tâtons. Sans grande connaissance, c'est sûr qu'ils ne connaissent pas la liturgie, ils ne connaissent pas les réponses qu'il faut faire à la messe, ça fait peut-être longtemps que même ils ne sont pas allés à une messe. Et peut-être qu'il y aura une funéraille sans messe, ils vous diront quelle belle messe, mais parce qu'ils ne verront pas trop la différence. Mais je crois que c'est pas ça le problème. Nous ayons à cœur de ne pas déserter ces lieux-là. Et je trouve, bon, même si c'est bien de l'implication des laïcs, mais je trouve un peu dommage, par exemple, que les prêtres, bien souvent, laissent cet aspect, par exemple, de l'enterrement, pas en Alsace, parce que c'est encore cette tradition de la messe, donc du coup, forcément, le prêtre est présent, mais dans d'autres diocèses, l'enterrement est uniquement célébré par des laïcs, sans la parole du prêtre, alors que c'est un vrai lieu d'évangélisation. C'est un vrai lieu de contact avec des personnes qui ont quelque chose qui me demande. Ensuite, là-dessus arrivèrent ses disciples. Et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant, pas un ne dit « Que cherches-tu ?» ou « De quoi lui parles-tu » La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples priaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Alors, cette femme, elle a été touchée, elle va ensuite dans son village, et elle lui dit, venez voir, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait, c'est-à-dire qui me connaît, qui a découvert mon désir d'aimer, qui a découvert ma blessure, qui a découvert, ne serait-il pas le Christ ? Alors, cette femme-là, à mon avis, c'est pas quand même pas n'importe qui, parce que pour que quelqu'un sorte et que toute la ville ensuite la suive et l'emmène ensuite voir Jésus, parce que c'est ça, hein, ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Donc, on voit bien la scène, cette femme, elle laisse là sa cruche, c'est-à-dire, elle oublie le côté utilitariste, c'est-à-dire, de ce même pourquoi elle était venue. Elle oublie ça et elle va vers. Elle est comme. Elle est touchée. Elle dit : j'ai fait une rencontre extraordinaire. L'évangélisation, ça se passe par des rencontres, par des visages, par des personnes. Alors, à l'ère d'Internet, c'est très bien. Il faut absolument être présent sur Internet, ça c'est sûr. Mais j'allais dire, c'est pas un écran qui évangélise. Si à un moment donné, cette réalité virtuelle ne conduit pas à une rencontre personnelle, on en reste à la surface. Il n'y a pas d'application. Et alors, cette femme qui s'était, parce que cette femme-là, elle est peu recommandable, je veux dire, elle ne serait pas allée à l'église, entre guillemets, parce que bon, cinq maris. Mais en même temps, les gens l'écoutent. Les gens, elle va frapper à la porte des gens, ils le suivent tous. Bon, ça devait être quelqu'un d'un peu particulier. On ne sait pas, on n'en sait pas plus sur elle, mais on ne sait même pas son nom, du reste, c'est intéressant. Et donc, voilà. Et puis, on voit au fond, après, Jésus, qui, avec les disciples, a la même manière de procéder qu'avec la Samaritaine. Mais à propos non pas du boire, mais du manger. Mange parce que quelqu'un lui aurait-il apporté à manger. Alors Saint Jean, évidemment, passe, c'est un grand spirituel, donc forcément il passe tout de suite au niveau mystique. Ma nourriture, et ça continue comme ça, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de mener son œuvre à bonne fin. Voilà, ma nourriture, c'est autre chose, ma nourriture. Faut que vous compreniez ce qui me nourrit intérieurement, c'est pas ce que vous, les quelques galettes ou pains que vous m'apportez. Encore 4 mois et vient la moisson, et bien je vous dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton, autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués, d'autres se sont fatigués, et vous vous héritez de leur fatigue. Voilà. Il dit les chansons. Pour Jésus, ça veut, cette rencontre-là, ça voudra dire levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson, c'est-à-dire ils sont déjà prêts. Il y a un désir là. Il y a une moisson, la moisson est abondante, les ouvriers sont... Ne perdez pas de vue ça. Il y a là un vrai besoin, il y a une quête. Et on doit être, nous, au rendez-vous. Et parfois, ça peut être une seule rencontre, parce qu'il n'est pas du tout dit que Jésus ait rencontré à nouveau cette femme. Rien ne marque ou ne montre que cette femme ait été au pied de la croix, par exemple, alors qu'elle a su, tout Jérusalem savait, je veux dire, la crucifixion, etc. Elle a su tout ça. Mais il y a eu à un moment donné, il y a eu quand même dans sa vie un avant et un après. Dans la vie de la Samaritaine, c'est clair que sa vie ne va pas être comme avant. Elle se découvre elle-même comme adoratrice, avec sa propre religion, mais en esprit, en vérité, elle se découvre, bon... Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'est intéressant de voir ça, de voir cette femme qui, au fond, par sa parole, quelque part a converti aussi les gens de la ville où elle habitait. Quand ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Ça, c'est vraiment des gens qui sont loin de la foi d'Israël et qui découvrent le Christ comme il est le sauveur du monde. Mais c'est unique comme passage. Dans l'Évangile, c'est absolument, absolument unique. De voir cette femme-là qui devient ensuite évangélisatrice, qui conduit Jésus à son village, à sa ville, et Jésus qui peut s'exprimer, qui peut parler, eh bien nous savons maintenant que c'est lui le sauveur du monde. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours où il demeura avec... L'histoire ne le dit pas, l'Évangile ne le dit pas. Mais je crois que c'était une belle leçon d'évangélisation, comme il y en a rarement dans l'Évangile, la Samaritaine. important de voir ce cheminement, comment elle est amenée à être elle-même ensuite apôtre, évangélisatrice. On voit bien toutes les étapes en fait de sa conversion. Alors pour nous, je pense que c'est de la même manière, on a été touché, alors on est peut-être dans la foi depuis toujours aussi, ça c'est peut-être plus facile pour nous, parce qu'on baigne dedans, c'est-à-dire c'est qu'on est tombé dedans quand on était petit, comme Obélix, dans la marmite de potions magiques. Hein? Mais bon, il n'en demeure pas moins que on a été touché, mais c'est pas pour ça, parce qu'on a été touché, que le Seigneur ne nous appelle pas à nous laisser toucher à notre tour, et puis à rendre témoignage aussi de ce que nous avons vu et entendu, à rendre témoignage, à d'une manière ou d'une autre, témoigner, à ne serait-ce que par la prière ou l'intention de prière. Je pense bien des gens, vous voyez, nous confient des intentions. Au lieu de dire « je pense bien à toi », mais « je prie bien pour toi ». Le fait de penser, de prier, c'est pas pareil. On peut penser, mais la pensée ne nous sauvera pas, la prière peut nous sauver. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça, des petites choses qui font, je prie pour toi, ou dans une lettre, ou dans un mail, ou dans... Voilà, je pense que c'est... En tout cas, les temps sont favorables. Les temps sont favorables pour cette nouvelle évangélisation. C'est en Europe, parce qu'on arrive à une forme de saturation de nos contemporains par rapport au matériel, par rapport à la société de consommation, et que revient en force un désir de sacré, mais qui trouve une expression dans différentes réalités spirituelles, pas forcément dans l'Église du reste. Mais parfois oui, pas mal de baptêmes d'adultes ou de conversions, de gens qui sont recommençants, qui redécouvrent la foi de leur baptême. Donc c'est important de se laisser toucher, d'être accessible aussi à toutes ces personnes qui sont sur le seuil, comme on dit, pour pouvoir être nous-mêmes, eh bien, comme à la place du Christ, hein, par rapport à la Samaritaine, dans une attitude d'écoute et d'accueil et de bienveillance et d'encouragement. Il n'y a pas eu de condamnation de la part de Jésus par rapport à la manière de vivre, aux mœurs de cette femme. Non, il l'a emmenée plus loin. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc pour l'annonce de la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, ou des témoignages, quelque chose à apporter, quelque chose à...